suite. Django et compagnie, c'est mercredi à 20h.
CIBL 101.5, Montréal.
CIBL, au cœur de la musique.
C'est intermittent jusqu'à Wellington. Vers la rive sud, congestion depuis Turcot, parce qu'on a eu un accident tout à l'heure sur la 132.
Bon, mais c'est clair, tu vas être en retard.
Ah, cool, j'ai de la gym.
Parce que la 132 demeure encore occupée.
Il est 9h.
CIBL. 101.5.
Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez les Aurores Montréal sur CIBL. Nous sommes le mercredi 13 mars et ici Charline Carreau, votre animatrice pour cette nouvelle journée qui commence. Et aujourd'hui on reçoit Pierre-Luc Labbé pour parler de la jeune génération de travailleurs, suivi de Jérémy Davernas pour parler du mouvement Action Chômage. Et pour finir, ce sera au tour de Julie Grenier et de sa chronique sur les enjeux d'itinérance. Alors que vous soyez au travail, sur la route ou bien tranquillement en train de vous réveiller, bienvenue sur les ondes de CIBL. Et dans l'actualité, les maires du Grand Montréal sont en discussion pour augmenter la densité en ville. Certains élus proposent de créer des centaines de milliers de logements, notamment dans les villes et les quartiers desservis par les trains de banlieue ou le métro. Au centre-ville, il a par exemple été proposé de densifier 450 logements par hectare contre 150 actuellement. Ce projet fait néanmoins l'objet de critiques de la part d'élus qui y voient un projet irréaliste et disproportionné. Et ensuite, une suggestion culturelle avec Miro Chino qui se produit demain soir à Montréal. L'artiste autodidacte propose un répertoire qui mêle rap et rock, le tout à travers une plume poétique. C'est donc à retrouver demain à 19h au Centre culturel Henri Lemieux. On continue sur CIBL avec l'entrevue de Pierre-Luc Labbé. Je reçois ce matin Pierre-Luc Labbé, directeur de Rome, une firme de services consultatifs en ressources humaines. Bonjour Pierre-Luc.
Salut.
Vous êtes donc professionnel en ressources humaines, mais aussi professeur d'université depuis quelques temps.
Chargé de cours en fait.
Chargé de cours, c'est pas la même chose. Pas de souci. Et je vous reçois justement pour parler de la lettre que vous avez publiée dans la presse la semaine dernière, dans laquelle vous défendez les forces de la jeune génération de travailleurs, la génération Z. Tout d'abord, d'où vous est venue l'idée, l'envie de publier cette lettre?
Cette envie-là est venue de deux sentiments qui étaient quand même à l'opposé complètement. Donc, d'un côté, bon, depuis 2 ans, j'ai la chance d'être chargé de cours à l'université, puis je suis exposé, je suis aux premières loges, en fait, avec cette génération-là qui fait son entrée sur le marché du travail. Et c'était vraiment un élan d'admiration. Je trouve que cette génération-là ont des qualités assez exceptionnelles que j'ai appris à admirer, que j'aurais aimé avoir quand j'étais plus jeune aussi, que j'aurais aimé voir aussi. Et de l'autre côté, bon, en étant consultant en ressources humaines, j'entends beaucoup de choses de la part des leaders qui, ben, premièrement, ne savent pas vraiment comment s'adresser à cette main-d'œuvre-là. On parle de pénurie de main-d'œuvre, on parle d'une main-d'œuvre volatile quand même, des marchés du travail qui sont quand même pas évidents quand vient le temps de recruter, d'embaucher, de retenir une main-d'œuvre qualifiée. Et aussi, j'entends des choses assez colorées sur cette main-d'œuvre-là. Puis je trouve que de simplement se plaindre sur cette main-d'œuvre-là, est-ce que ça apporte des solutions? Je ne suis pas certain. Ça fait simplement, selon moi, élargir, dans le fond, l'écart qu'on a avec cette génération-là. Puis je pense qu'il est temps de un peu bâtir des ponts entre ces générations-là. Moi, je me trouve un peu au milieu de tout ça aussi, en tant que vieux millénial, en fait.
Parce que vous n'êtes pas de la génération Z, on précise.
Je ne suis pas, exactement. je suis aux premières loges, mais je ne suis pas la génération Z. Je suis simplement curieux, passionné des relations humaines puis des humains en général. J'espère faire preuve d'ouverture aussi avec tous les gens que je rencontre, justement, pour être exposé à différentes réalités. Puis j'ai décidé vraiment d'écrire cette lettre-là comme un élan d'admiration, mais aussi peut-être un signe pour les leaders d'aujourd'hui d'arrêter de se plaindre puis d'essayer de freiner ce discours-là de « bon, on ne peut plus rien dire », etc. Donc, je trouve qu'il est temps qu'on passe à un autre appel puis qu'on apprenne justement à créer ce dialogue-là avec une main-d'œuvre qui, selon moi, est assez extraordinaire.
Et ce discours, justement, il consiste à dire que la génération Z, donc les jeunes nés dans les années 2000, seraient paresseuses, hypersensibles, volatiles et isolées, selon les mots que vous employez.
Ouais.
Dans quel genre de contexte vous entendez ces critiques?
J'entends ces critiques-là quand on parle, par exemple, quand une entreprise veut mettre en place place des politiques internes, par exemple, ou déployer des efforts pour recruter et embaucher une certaine main-d'œuvre. Mm-hmm. Donc, quand on intègre des gens dans nos équipes qui font partie d'une différente génération, mais la façon dont on s'adresse à cette génération-là, selon moi, doit être complètement différente parce que la génération est différente. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment, je trouve que ça vient vraiment pour les entreprises, vraiment, de mettre en place des choses qui vont répondre à une génération, puis de dire ce qu'on a toujours fait va fonctionner encore, je pense qu'on n'est plus là. Mm-hmm. Puis c'est le temps vraiment pour les organisations de se tourner de bord, d'écouter aussi, puis de s'adresser vraiment d'une façon adéquate à une génération qui, selon moi, est remplie de qualité, mm-hmm. justement.
Vous parlez même d'une frustration face à ce que vous entendez à propos mm-hmm. de la jeune génération. Pourquoi ça vous touche autant alors que vous n'êtes pas de cette génération Z dont vous parlez?
Bien, premièrement, je pense que les entreprises ont, pour la plupart, en fait, dans les industries dans lesquelles j'évolue, en pénurie de main-d'œuvre, on a de la difficulté à garder les employés motivés, mmh. mobilisés. Il y a des taux de roulement qui sont quand même assez élevés. Donc, c'est notre travail, en fait, en tant que spécialiste RH, de, bien, premièrement, combler ces postes-là, mais aussi de mettre en place dans les entreprises des meilleures pratiques en matière de gestion mmh. des humains, puis aussi de créer des environnements qui vont être sécuritaires mmh. psychologiquement. On est dans des industries où est-ce que les taux de d'épuisement professionnel, de congés maladie sont à leur pic. Et je trouve que, justement, certaines qualités de cette génération-là, qu'on peut décrire, par exemple, quand je dis que cette main-d'œuvre-là, j'entends beaucoup que la main-d'œuvre est paresseuse, mm-hmm. qu'ils ne veulent pas travailler. Bien, moi, je trouve qu'au contraire, cette main-d'œuvre-là vient d'avoir quand même une certaine lucidité par rapport à leur propre mm-hmm. santé mentale puis la façon dont ils prennent soin d'eux-mêmes.
Oui, en fait, vous dites que la génération est réfractaire au travail, ça vous êtes d'accord, mais en fait, vous dites qu'ils ont raison.
Oui.
Presque, oui.
Clairement. Mm-hmm. J'entends beaucoup d'une certaine génération, « Ah, nous, on l'a eu à la dure. Eux aussi doivent mm-hmm. l'avoir à la dure. Je l'ai fait le temps supplémentaire. Eux aussi doivent le faire. » Puis je trouve que, justement, quand on regarde les données par rapport à l'épuisement professionnel, les gens qui changent de carrière, justement, puis surtout avec ce qui vient de nous arriver avec la pandémie, on le voit, la grande démission, on l'a vu il y a quelques années. Je trouve que, justement, de re-questionner la façon dont on fait les choses pour être plus efficace, pour éviter, justement, de s'épuiser au travail, ce sont des ressources que cette main-d'œuvre-là ont quand même de façon un mm-hmm. petit peu plus automatique que nous, par exemple. Mm-hmm. Quand j'ai entré le marché du travail il y a déjà 20 ans, on re-questionnait peu l'autorité. Donc, on faisait le travail qui nous était attitré, tandis qu'aujourd'hui, quand on entre d'emblée, quand on initie un projet avec la main-d'œuvre, où est-ce qu'on les consulte, on fait les choses de façon intelligente, on re-questionne les processus pour être plus efficace, bien, à ce moment-là, on vient utiliser toute l'équipe pour faire en sorte que bien, la santé psychologique de tout le monde est préservée.
Mmh. Donc, ces critiques, en fait, elles ne sont pas forcément infondées. Il faut juste se demander pourquoi les jeunes agissent de cette manière et, en fait, peut-être même valoriser ce qui est au final des critiques.
Absolument. Mm-hmm. Tu sais, mais sur les bancs d'université, j'entends des étudiants qui, par exemple, de façon très confortable, vont lever la main en disant, par exemple, « Je souffre d'anxiété. Je suis dyslexique. J'ai un trouble de l'attention. Mm-hmm. » Ce sont des choses que moi, plus jeune, j'aurais beaucoup aimé entendre dans les classes où est-ce que les gens peuvent s'identifier à ça puis mettre en place des mécanismes pour faire en sorte qu'on s'adapte aussi à une main-d'œuvre qui est vraiment diversifiée, qui l'a toujours été, mais dans laquelle on ne parlait pas, pour éviter vraiment certains problèmes par la suite.
Et en effet, vous parlez de la bienveillance, qui est une des caractéristiques de la génération Z. Il y a vraiment une rupture, quelque chose de différent dans la génération Z par rapport à la bienveillance?
Bien, moi, je parle de mon filtre à moi. C'est sûr et certain que, bon, j'ai grandi dans le nord du Québec. J'ai été aussi à l'université début des années 2000. Par rapport à la bienveillance, je trouve que, oui, on a encore du chemin à faire par rapport à l'intimidation, etc., mais je trouve qu'elle est beaucoup moins présente. Mm-hmm. Je vois une main-d'œuvre qui est vraiment diversifiée aussi sur les bancs d'université, diversifiée et aussi très vocale par rapport à leur identité, que ce soit une identité de genre, une diversité d'orientation sexuelle, une diversité culturelle, une diversité, par exemple, neurodivergente aussi. Donc, on le voit beaucoup, puis on voit cette main-d'œuvre-là, je trouve, s'exprimer là-dessus. Ils savent exactement qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour bien s'adapter à eux, chose que j'entendais pas du tout dans le mm-hmm. passé. T'sais, moi, je fais partie de la communauté LGBT et d'avoir cette bienveillance qui règne là sur les bancs d'université ou secondaire, même quand j'y étais, m'aurait vraiment beaucoup aidé. Mm-hmm. Puis ça, je trouve que c'est très admirable de cette génération-là. Moi, je suis vraiment en admiration face à eux. Ou est-ce que, en tout cas, des groupes que je vois, la toxicité n'a pas beaucoup de place par rapport mm-hmm. à dans le passé?
Vous observez également chez les jeunes une volonté de donner du sens à leur travail.
Oui.
Vous qui travaillez dans les ressources humaines, quel est l'impact d'une tâche sensée sur la productivité? Est-ce que c'est important de donner du sens à son travail?
Bien, peu importe la génération dont on fait partie, je pense que d'avoir du sens à son travail fait partie un des facteurs pourquoi on va être épanoui dans son milieu de travail aussi. Mais la raison pourquoi j'ai emmené cet argument-là, c'est qu'il fut un temps où on faisait le travail qui nous était demandé et aussi les questions que les jeunes posaient lors d'une entrevue d'embauche, par exemple, il y a 20 ans, étaient plus par rapport au projet, la technologie, les possibilités d'avancement, les promotions, etc. Tandis qu'aujourd'hui, je le vois d'emblée, quand les jeunes font le choix d'un potentiel employeur, on me pose des questions qui sont beaucoup plus profondes. Qui est à la tête de cette organisation-là? Quelles sont les valeurs de l'organisation? Quel est l'impact que l'organisation a sur la société? Ce genre de questionnement-là, qui était oui, présent dans le passé, mais un peu moins aujourd'hui, fait partie des premières questions que cette main-d'œuvre-là pose quand ils joignent une organisation. Puis je pense que c'est aussi aux organisations de mieux communiquer justement sur leurs valeurs d'entreprise, sur leur raison d'exister, chose qui était un petit peu absente de leur discours dans le passé. Donc, on s'éloigne de projets performance, puis on est plus dans la préservation de environnement, société, justice, partage des profits, équité à l'interne aussi, etc. Puis c'est pourquoi comme des certifications comme B Corp, etc., qu'on voit vraiment émerger ces temps-ci, font partie d'outils que les employeurs prennent à l'intérieur des organisations pour pouvoir attirer la main-d'œuvre, justement.
Donc, les choses évoluent dans le bon sens.
J'ose espérer.
Pour revenir aux critiques émises à l'encontre des jeunes, le chercheur à l'Université Calgary, Paul Ferry, a regroupé et publié en 2022, plusieurs articles qui contenaient la formule « Plus personne ne veut travailler de nos jours ».
Oui.
Le plus ancien article qui soutenait cette idée remonte à 1894, et puis on en retrouve une douzaine d'autres tout au long du XXe siècle jusqu'à nos jours.
Oui.
Cette critique des jeunes, en fait, on voit à travers cette étude et peut-être d'autres qu'elle traverse en fait les siècles. Est-ce que vous pensez quand même que la génération Z est particulièrement touchée par des critiques ou que c'est quelque chose qui revient en cycle?
Très bonne question. J'essaie de rappeler qu'est-ce qu'on disait de ma génération dans le passé. Je fais partie, j'étais un vieux millénial. Moi, j'étais la génération cellulaire. Donc, on se plaignait que ma génération était toujours sur leur cellulaire. Puis là, aujourd'hui, on se rend compte que tout le monde est toujours sur leur cellulaire. Ça a juste pris plus de temps à le ramasser. Mais est-ce que c'est quelque chose qu'on dit toujours? Bien, je pense que humainement, on chiale toujours sur la génération qui s'en vient, on l'entend toujours, donc ça fait partie des discours qu'on entend tout le temps. Est-ce que cette génération-là est plus affectée par ça? Peut-être, puis aussi peut-être parce qu'au contexte socio-économique, on vient de vivre une pandémie où est-ce que plusieurs gradués universitaires ont fait leur parcours académique seuls, ont des fois intégré des entreprises comme premier pas dans le marché du travail seuls aussi. Est-ce que ça n'a pas eu un impact? Peut-être. J'ai pas fait d'études là-dessus, mais on voit quand même les impacts de ça des dernières. Quand 4 ans, ça peut être long, surtout quand on commence son bac et on le termine en pandémie, puis intégrer une équipe avec plein de monde, ça peut être un peu plus challengeant au niveau social.
Vous voyez, vous, un certain choc des générations dans votre milieu des ressources humaines? Vous voyez des ruptures entre les différentes tranches d'âge?
Oui, je le vois, puis je le vois de plus en plus. Je pense qu'on est à une ère, en général, où est-ce qu'on crée beaucoup de silos. On le voit sur les médias sociaux, des chambres à écho, etc. Puis oui, je le vois définitivement, un pont que je trouve qui est en train vraiment d'être un peu plus long. Il y a peu de conversations entre ces générations-là, puis je trouve que c'est quand même dommage. Puis je trouve que c'est un petit peu pour ça que l'envie d'écrire l'article est arrivée. C'est bon, OK, je comprends, on peut chialer, c'est correct de ventiler, mais là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis comment, dans le fond, ces générations-là peuvent apprendre à s'apprécier malgré leurs différences? Ça fait un peu idéaliste comme discours, mais je suis optimiste dans la vie. Donc.
Oui, et vous parlez de créer des ponts, parce que comprendre les générations, ça marche dans les deux sens. Là, on parle des plus vieux qui comprennent pas les plus jeunes, mais les plus jeunes aussi ont beaucoup d'a priori généraux sur les plus âgés. C'est quoi? Il faut dialoguer, il faut se fréquenter. Vous avez changé un peu de perspective sur la génération Z en les fréquentant à l'université. Il faut se mêler.
Absolument. Puis moi, je fais beaucoup de développement. Par exemple, je fais du coaching avec certains clients en leadership sur certaines problématiques. Puis quand je parle à certains entrepreneurs qui se cassent la tête dans des focus groups à dire qu'est-ce qu'on va faire pour attirer cette main-d'œuvre-là, comment on va leur parler, on ne sait pas trop comment s'adapter. Donc, il y a beaucoup de points d'interrogation. Puis une des premières questions que je leur pose, c'est « Leur avez-vous demandé? » Puis souvent, ils vont me dire « Oh wow, quelle bonne idée! Il n'y avait jamais pensé. Donc, de parler vraiment aux personnes concernées, à dire « Hey, la gang, on aimerait ça bien travailler ensemble. Comment on fait pour développer des systèmes qui vont faire en sorte qu'on est tous capables de bien travailler ensemble? » C'est des choses qui sont très simples à faire, mais que peu d'organisations, malheureusement, que je vois, ont fait.
Vous êtes donc fondateur de ROM?
Oui.
Exactement.
ROM, oui.
Donc, une firme de services consultatifs en ressources humaines. Est-ce que vous pourriez nous expliquer globalement ce que c'est les ressources humaines? Parce qu'on s'y appuie dessus depuis le début de l'entrevue, mais qu'est-ce que c'est? En quoi consiste votre travail?
Oui, absolument. Donc, mon équipe, on est une équipe de 20 personnes à Montréal et Vancouver qui se spécialisent, dans le fond, dans les stratégies de ressources humaines au sens large. C'est tout ce qui est attirer, mobiliser et gérer la main-d'œuvre au sens large. Donc, on parle ici de, marque employeur, embauche, processus d'embauche. On parle ici de développement du leadership, de politique interne aussi. Qu'est-ce que les entreprises doivent mettre en place pour être attractives sur le marché du travail face à leur compétition? Quand on parle de rémunération globale, quand on parle de politique de vacances, tout ce qui vient avec, dans le fond, avoir un emploi, formation, développement des compétences, etc., jusqu'à la transition. On parle de l'entrée et la sortie d'une entreprise, le cycle de vie d'un employé, en fait.
Et à travers cette firme, vous essayez de transmettre un message de dialogue entre les générations. C'est à travers votre travail que vous transmettez le message que vous avez publié dans votre
article. J'essaie, à mon échelle, du moins. Je trouve que la bienveillance fait partie d'une des qualités qu'un ou une professionnelle en ressources humaines doit avoir. Je trouve que de vraiment l'écoute puis de créer ces dialogues-là, ça fait aussi partie de notre travail. On a un travail qui peut paraître très administratif, mais on a un travail d'influence qui peut être très grand aussi quand on parle de développement du leadership, de capacité d'écoute. C'est des compétences qu'on doit développer. Puis je trouve que je fais de mon mieux, du moins, pour bien propager le message, là, justement.
Eh bien, jusqu'à maintenant, ça fonctionne. C'est passé à la radio, c'est passé dans la presse. Merci beaucoup, Pierre-Luc, d'être passé à notre micro. On peut retrouver votre article donc, sur le site de la presse, intitulé « À bout de ce que j'entends sur les aides ».
Oui.
Très bien. Et pour votre firme de ressources humaines, ça se passe sur rhum.hr.
Exactement, oui. Et sur tous les médias sociaux.
Et sur tous les médias sociaux. Merci beaucoup, Pierre-Luc.
Je vous remercie de l'invitation.
On se retrouve pour votre prochain article.
Absolument, avec plaisir.
On continue sur CIBEL avec l'entrevue du Mouvement Action Chômage de Montréal.
Les métiers des arts et de la culture, il y en a une foule. Ça demande des gens de talent qui créent, innovent et soulèvent la fierté. Ça fait des vies remplies d'imprévus, des journées qui suivent sans se ressembler, des avenirs hauts en couleur. De la gérance à l'enseignement, de la gestion au numérique, quel que soit ton engouement, tu vas trouver le métier qui va te passionner. Pour découvrir des gens et des carrières hors de l'ordinaire, visite cultureetmoi.ca. Culture et moi, des métiers de sens et de passion. Un message du gouvernement du Québec.
Vous cherchez une activité ludique et rassembleuse? Inscrivez le Bingo Radio de CIBL à votre agenda. Chaque semaine, courez la chance de gagner 3 500 $ en prix. Invitez vos amis et jouez avec nous tous les dimanches dès 13h. Pour participer, procurez-vous les cartes de jeu du bingo de CIBL dans un point de vente près de chez vous. Pour trouver des lieux, visitez notre site web au cibl1015.com sous l'onglet Bingo Radio de CIBL. À dimanche prochain et bonne chance!
Québec en musique présente notre histoire musicale complète de ses débuts à aujourd'hui. Ce sont nos artisans, nos auteurs, compositeurs et interprètes qui ont tracé la voie et créé cette musicalité unique au Québec, sans oublier l'émergence de nouveaux créateurs qui constituent l'ADN de Québec en musique. Soyez des nôtres chaque samedi à compter de 6h30 à CIBL 101.5 Montréal.
Salut, ici Philippe Papineau et je suis de retour à la barre de l'émission Francophile sur les ondes de CIBL tous les mercredis de 10h à midi. Francophile, c'est 2 heures de bonne musique francophone, un pied dans le son du moment et l'autre, un peu plus nostalgique, dans les racines de la scène alternative. J'ai très hâte de vous retrouver et de vous accompagner en musique. Francophile, c'est le mercredi de 10h à midi.
CIBL.
Sur le bord de la rivière, je t'attendais. Sous le saule, où débuta notre amour. Égrenant le sablier du temps, je me suis assoupi. Sous le saule, où habitait notre amour. J'ai rêvé, ma bien-aimée, oui, j'ai rêvé. Et nous vivions notre amour au grand jour, que mon nom ne faisait plus d'ombre sur le tien, que mes proches étaient riches de terre et de biens. Souvent je me sens comme ces oiseaux qu'on a chassés pour prendre place, qui jamais ne feront de vieux os, comme le dernier des merles blancs d'Amérique. Sur le bord de la rivière, je t'attendais, en sachant bien que tu ne viendrais pas, que ton père ne scellerait jamais notre amour. De ce rendez-vous, tu n'étais que la part. J'ai prié, ma bien-aimée, oui, j'ai prié, pour te revoir une dernière fois. J'ai gardé la tête haute quand les bourreaux s'en sont allés. Sous le sol où habitait notre amour. Souvent je me sens comme ces oiseaux qu'on a chassés pour prendre place, qui jamais ne feront de vieux os, comme le dernier des merles blancs. Que je descende tranquillement, loin du sol où débute à notre amour. Et surtout ne crois personne qui te dira que je suis parti, loin du sol où habite notre amour. Loin du sol où habite notre amour. Souvent je me sens comme ces oiseaux qu'on a chassés pour prendre place, qui jamais ne feront de vieux os, comme le dernier des merles blancs d'Amérique. Comme le dernier des merles blancs d'Amérique.
Vous écoutiez Saul de Carrier-Bolduc et je reçois à présent Jérémy Davernas, responsable de services juridiques au mouvement Action Chômage de Montréal, pour nous parler de leur nouvelle campagne en cours. Bonjour Jérémy.
Bonjour.
Vous avez lancé la semaine dernière la campagne Pousse mes poussettes égales pour promouvoir la protection des femmes au chômage. Pour nous donner un peu de contexte, est-ce que vous pourriez tout d'abord nous expliquer ce que prévoit la loi pour la protection des chômeurs ?
Oui, tout à fait. Nous, dans le fond, au mouvement Action Chômage de Montréal, on est vraiment spécialisé sur l'assurance chômage. Le programme s'appelle Assurance Emploi depuis 1996. Donc, c'est un remplacement de revenus quand on se ramasse sans emploi. Tout le monde cotise, hein, tous les salariés cotisent sur chaque chèque de paye, les employeurs aussi. Et puis, on va recevoir un remplacement de revenus à 55% plus ou moins de notre revenu. La campagne vise principalement le fait que la loi ne prévoit en fait rien pour les femmes, pour les travailleuses qui vont perdre un emploi durant leur congé de maternité ou tout de suite après. Donc, les femmes vont s'absenter, congé de maternité, congé parental, là, dans le RQAP, Régime québécois d'assurance parentale au Québec. Puis si, par exemple, il y a une abolition de poste pendant le congé, ben, quand le congé de maternité est terminé, elles vont aller cogner à la porte de l'assurance emploi, elles vont dire « Maintenant, j'aimerais ça, je ne suis plus en congé de maternité, je suis apte au travail, je cherche la job. » Ils vont dire « On ne te paye pas. » À cause de toutes sortes de petites règles techniques, là, notamment, on ne peut pas recevoir plus qu'un certain nombre de semaines de prestations. La période de prestation dure juste un an. Pourquoi ça touche les femmes en particulier? Parce que la loi, évidemment, la loi ne vient pas dire on ne paye pas les femmes. Là. Tous les cas de discrimination de nos jours, en tout cas, sont moins flagrants que ça, comme à l'époque. Donc, c'est une règle qui a l'air neutre, c'est une règle qui donne un certain maximum de semaines. Pourquoi ça touche les femmes? C'est parce que ce sont les femmes, encore aujourd'hui, qui vont prendre le long congé de maternité. Hein. Je ne sais pas si vous savez, mais on a, au Régime québécois d'assurance parentale, on a 18 semaines de maternité pour 18 semaines de maternité, 5 semaines de paternité, puis 32 semaines de congé parental qu'on peut se partager entre les parents. Mais le fait est qu'encore aujourd'hui, c'est dans une immense majorité, on est dans des chiffres autour de 85 %. Ce sont les femmes qui vont prendre l'entièreté du congé parental qui est partagé. Donc, ils ne partagent pas. Donc, c'est qui dans les travailleurs et travailleuses qui va se ramasser à avoir pris 50 semaines, c'est-à-dire l'entièreté du maternité et du parental ensemble? Ce sont les femmes. Et c'est quand on touche ce 50 semaines-là d'absence du marché du travail et qu'on fait une demande à son emploi qu'on n'est pas couvert. Donc, nous, ce qu'on vient de dire, c'est que c'est la loi d'apparence neutre, mais en fait, le fait social, que ce sont encore aujourd'hui les femmes qui s'absentent pour prendre soin des enfants, pour accoucher, pour élever les très jeunes nourrissons, mais aussi pour les responsabilités familiales, ça fait qu'elles ont finalement, elles renoncent à leurs droits. Mm-hmm. C'est comme si elles utilisaient les cotisations qu'elles ont payées vont servir à leur absence pour la maternité, mais elles ne vont pas les couvrir. Mm-hmm. C'est comme si elles renonçaient à leur protection en cas de chômage du fait qu'elles s'occupent des enfants. Donc, pour nous, c'est un cas de discrimination flagrant.
Oui, donc, en gros, la grossesse, la maternité, les responsabilités parentales assumées par les femmes réduisent le nombre de semaines de protection chômage dont elles peuvent bénéficier, alors que les hommes maintiennent ce plafond de 50 semaines pendant que les femmes les gaspillent, entre guillemets, en s'occupant de tâches qui sont réservées aux mères, c'est ça?
Oui, on pourrait dire ça. Mais en fait, c'est pas que ça va réduire le nombre de semaines, c'est qu'elles vont arriver à zéro. Là. C'est-à-dire, c'est un peu technique, mais je pense que c'est important d'expliquer. On est la seule province qui a un régime provincial d'assurance parentale. Okay? Au Québec, en 2006, on s'est dit on va se créer un régime qui est meilleur que ce qu'on a dans le reste du Canada, qui est plus bénéfique. Dans le reste du Canada, c'est l'assurance chômage. C'est le programme d'assurance emploi qui paye des prestations de maternité. Donc, quand on va commencer un congé maternité au Québec, c'est comme si on se partait une demande d'assurance chômage fictive. Là. Les gens ne font pas de demande, mais dans les faits, ça leur part quelque chose. Puis quand on a touché 50 semaines de prestations de maternité, que ce soit RQAP au Québec ou assurance chômage dans le reste du Canada, c'est quand on arrive à ce 50-là qu'on dit, mais après 50, on ne te paye plus. Même si tu as le droit, théoriquement, tu aurais le droit à entre 14 et 36 semaines de prestations régulières, tu as atteint 50, c'est fini. Donc, les femmes qui vont prendre moins que 50, c'est qu'ils vont partager un peu avec le conjoint, vont peut-être avoir quelques semaines de prestations, parce qu'elles vont être un peu en bas de 50, donc on fait la différence. Celles qui vont prendre, mettons, 40 semaines de congé de maternité, il va leur rester 10 semaines, elles vont pouvoir le prendre. Mais les femmes qui vont prendre tout le parental, elles vont se faire dire, t'es arrivé à 50, c'est zéro, va retravailler quelques mois, puis reviens nous voir si t'as besoin, mais là, on ne paye pas. Fait que là, on a des femmes qui se sont déjà éloignées du marché du travail. On sait que c'est difficile pour les mères de revenir. On sait que des fois, quand elles reviennent dans leur poste, elles ne retrouvent pas le poste qu'elles avaient. Bon, toutes les embûches qui, malheureusement, existent encore aujourd'hui. Là, on n'est pas dans une société égalitaire, loin de là. Mais là, en plus, on va les appauvrir davantage en disant, tu t'es absenté, tu as perdu ton emploi. Puis là, en plus, on ne paye pas d'assurance emploi.
Donc, on voit que ces dispositions légales, elles traduisent aussi un point de vue politique et sociétal.
Tout à fait, tout à fait. Puis, l'interprétation des tribunaux est en train de changer là-dessus. Ce qu'on avait de façon plus traditionnelle, c'était des tribunaux qui étaient très, très réticents ou très, très prudents à venir appliquer la Charte canadienne des droits et libertés pour des programmes sociaux. Quand on évoquait de la discrimination basée sur le genre, l'âge, l'origine nationale, l'orientation sexuelle, toutes les catégories, les minorités protégées par la Charte, les tribunaux souvent venaient nous dire « c'est un programme social, le gouvernement pourrait faire le choix d'en faire ou de ne pas en faire, donc on ne va pas venir jouer là-dedans, c'est du politique ». Mais là, tranquillement, pas vite, ça commence à changer l'interprétation jurisprudentielle par la Cour suprême. Puis on est en train de dire, non, il y a un programme social, il faut qu'il soit juste pour tout le monde. Mm-hmm. Puis vous avez des règles qui sont neutres, mais vous ne pouvez pas vous cacher derrière le fait que vous, quand vous les avez écrites, vous ne pensez pas faire de mal à personne. Le fait social, comme vous dites, le fait politique, c'est que ce sont encore les femmes qui s'absentent beaucoup plus et beaucoup plus longtemps pour des congés de maternité. Puis ce que ça traduit aussi, c'est que c'est encore les femmes, souvent, dans les couples hétérosexuels, qui ont le deuxième salaire, le salaire le plus petit. Parce que les couples, c'est le choix qu'ils font. Ils se disent, qui va prendre le congé, qui est une fraction du revenu, mais quel revenu on va garder à 100 %? Le père va gagner plus, on va dire, le père va retourner au travail. Puis la femme, de toute façon, elle a un salaire moindre. Ça trahit déjà une inéquité salariale qui est assez présente dans le marché du travail. Puis c'est, au lieu de réparer ça, ça aggrave le problème.
Et vous parlez d'une discrimination systémique qui résulte de cette loi liée au chômage.
Oui, nous, c'est notre prétention. On dit qu'il y a une discrimination en vertu de la charte. Donc, on a commencé un recours en 2018. Dans le fond, c'est que depuis des décennies, il y avait des femmes qui appelaient au mouvement Action chômage, des travailleuses qui étaient dans cette situation-là. J'ai perdu mon poste ou je suis retourné travailler après mon congé de maternité quelques semaines, puis bon, la shop a fermé ou peu importe. On n'est même pas dans des congédiements abusifs, on n'est pas dans des mauvais employeurs là, nécessairement qui vont mettre dehors la nouvelle mère ou la femme enceinte. C'est tout ce qui est plus normal, mais dans la vie, il y a des fermetures de postes, il y a des fermetures d'usines, etc. Donc, elle nous appelait, puis là, on dit, il n'y a rien à faire, on ne peut rien faire pour vous. Fait que ces femmes-là, soit elles vont rester avec leur... On a plusieurs cas que ça entraîne le fait d'être privé d'assurance emploi dans ces situations. Il y a des gens qu'on envoie vers l'aide sociale parce qu'elles n'ont rien d'autre. Puis il y a aussi des femmes qui vivent, par exemple, des situations de violence conjugale, mais qui vont rester avec leur conjoint parce mm-hmm. qu'elles sont dépendantes financièrement. Donc, on n'arrêtait pas de leur dire, bien, on ne peut rien faire, la loi est comme ça, après 5 ans, c'est ça. Puis on s'est un peu tanné à un certain moment donné de répondre ça. On se dit, OK, le seul levier qu'on a quand on trouve une loi injuste là, au Canada, c'est soit de la changer politiquement au Parlement ou à l'Assemblée mm-hmm. nationale, ou soit de l'attaquer devant les tribunaux en vertu de la Charte. Puis on dit, nous, on pense qu'il y a une discrimination pour les femmes en vertu de la Charte canadienne. Donc, on a commencé un recours en 2018 pour représenter 6 plaignantes, 6 travailleuses qui étaient dans des situations un petit peu différentes, qui représentent différents milieux de travail, tout ça. On est allé au tribunal de la sécurité sociale. C'est le tribunal qui s'occupe de vérifier que la commission d'assurance emploi, Service Canada, comme on l'appelle souvent, là, rend des bonnes décisions. On a gagné notre recours au début. La juge Sauvé là, de la division générale est venue dire qu'il y avait, selon elle, de la discrimination. La commission d'assurance emploi était en appel. Soit on trouve ça malheureux, on aurait aimé mm-hmm. ça qu'ils constatent que, ben, coudonc, c'est pas très compliqué à changer en mm-hmm. plus. Là. Mais bon, ils sont allés contester, ils sont allés en appel. Et on a perdu à l'étape suivante. Et là, aujourd'hui, on est à la troisième étape, c'est-à-dire la Cour d'appel fédérale. On commence à être dans les grandes ligues. Là. Après ça, il reste juste la Cour suprême. Donc, on a déposé le recours à la Cour d'appel fédérale pour demander à la Cour d'appel fédérale d'accueillir notre appel puis de dire qu'il y en a de la discrimination. Mmh.
Donc, pour donner un peu de contexte, vous menez en effet un recours judiciaire auprès du gouvernement fédéral pour modifier donc, la loi sur l'assurance-emploi. Vous oui. voulez que toutes les travailleuses aient droit à une protection en cas de chômage, indépendamment, comme on l'a dit, de toute absence sur le marché du travail liée à la grossesse, à la maternité, aux responsabilités familiale. Cette bataille juridique, comment vous l'entrevoyez pour les mois, les années à venir? Est-ce que vous avez espoir d'obtenir gain de cause?
Oui, on a espoir. Mm-hmm. Oui, on pense qu'il y a des bases solides à notre recours. Là, on a confié le mandat à une firme d'avocats d'avocates, là, Melançon, Marceau, Grenier, Cohen. C'est les mêmes avocats qui ont gagné l'accès aux garderies pour les femmes demandeuses d'asile. Donc, on est contents. Ils connaissent bien les questions de charte et tout ça. On a bon espoir parce que il y a un fondement. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a gagné la première étape. Le jugement était très bon. Hein. Ce qu'il venait de nous dire, c'est clairement de la discrimination. La loi considère que finalement, ces femmes-là sont un salaire d'appoint. La loi vient les conforter dans leur situation de semi-travailleuse. C'est un peu ça qu'on leur dit aux femmes, finalement. C'est que, OK, tu as cotisé, mais tu as utilisé ça pour ton congé. Maintenant, ben, laisse faire, tu n'as plus rien pour les prestations régulières. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour déterminer qu'il y a de la discrimination, c'est un test en 2 étapes. Il faut d'abord déterminer qu'il y a une distinction. Est-ce qu'on traite les femmes autrement que le reste de la population? Puis ensuite, une fois qu'on a établi qu'il y a une distinction, le deuxième critère, c'est de dire, est-ce que maintenant, cette distinction-là crée un désavantage ou nuit de manière disproportionnée aux femmes? Ce sera la même chose pour d'autres catégories de minorités protégées. Ce qui est intéressant, c'est que le dernier jugement qui nous a fait perdre, c'est qu'il nous a quand même accordé une demi-victoire. Il est venu reconnaître qu'il y a une distinction. Il est venu reconnaître, le juge Chanson de la division d'appel du tribunal, que les femmes étaient traitées autrement. Malheureusement, le deuxième critère, il est venu dire que cette distinction-là ou ce traitement différencié-là ne venait pas leur nuire outre mesure. Là. Évidemment que je vulgarise. Là. On a quand même réussi à faire reconnaître la distinction, ce qui est peut-être le critère le plus difficile à faire reconnaître. Mm-hmm. Parce que normalement, les tribunaux vont dire non, il n'y a pas de différence, la loi dit ça, X nombre de semaines. Après ça, le fait social ne regarde pas le législateur, finalement, le fait que ce soit les femmes. On a quand même des bonnes bases. On a comme gagné la moitié, finalement, de la partie. Maintenant, il faudra voir ce que la Cour d'appel fédérale va décider là, dans une audience qui va avoir lieu, on n'a pas de date encore, mais dans les prochains mois.
Et c'est donc dans le cadre de ces recours judiciaires que vous avez lancé une nouvelle campagne la semaine dernière. Quelle est la stratégie derrière cette campagne?
La stratégie, c'est de mettre de la pression sur le gouvernement. On est dans une situation un peu particulière où tout le monde reconnaît le problème. Il n'y a personne qui est sorti pour dire « on est d'accord avec cette loi sexiste, on est d'accord avec le fait qu'on traite les femmes, les travailleuses, les mères comme des citoyennes de deuxième catégorie », évidemment. On est dans une situation un peu particulière où le gouvernement Trudeau et le Parti libéral du Canada est venu à plusieurs reprises dans un passé récent dire qu'ils reconnaissaient le problème. On a les autres partis au Parlement, le Parti conservateur, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils en pensent, mais le NPD puis le Bloc sont d'accord avec le fait de changer la loi pour protéger les travailleuses. Donc, même dans un contexte de gouvernement minoritaire, ils auraient le pouvoir de venir changer la loi. Donc, nous, ce qu'on venait de dire, c'est nous, on est prêts. On va aller se battre jusqu'au bout, jusqu'en Cour suprême. Vraisemblablement, on est parti pour se rendre en Cour suprême parce qu'on dirait que si on gagne, eux, ils vont la contester. Mm-hmm. Puis nous, on a bien l'intention...
Mais alors, pourquoi ils contestent, s'ils sont d'accord?
C'est un peu ce qu'on se demande.
Vous savez? C'est un mystère?
C'est un mystère. Ce qu'il vient nous dire, finalement, c'est que ce sont les hauts fonctionnaires, donc c'est le pouvoir administratif, mm-hmm. la patente, la machine de la technocratie qui prend les décisions, puis que le politique s'en mêle pas. C'est ce que l'ancienne mm-hmm. ministre Carla Quattro vient nous dire. Nous, on trouve que c'est un peu court comme argument, mm-hmm. là, parce qu'évidemment, s'il y avait de la volonté politique, il présente un projet de loi au Parlement, puis mm-hmm. on n'en parle plus. Mais ce qu'elle nous répondait, c'est « j'ai les mains liées », c'est la commission qui… souvent, l'État, les différentes agences administratives vont défendre leurs lois. C'est toujours mm-hmm. comme ça. Mais là, ils ont reconnu le problème. Fait que nous, on veut mettre de la pression pour dire changez-le. Surtout que c'est un gouvernement qui clame sur toutes les tribunes qu'il est mm-hmm. féministe puis qui veut mener une analyse différenciée selon les sexes de chacune des lois qu'il va adopter. Puis là, on roule sur une loi qui est évidemment sexiste à sa face même. Fait que pour répondre à votre question, le but de la campagne, c'est de dire nous, on est prêt à aller jusqu'au bout devant les tribunaux, mais arrêtez ça. Mm-hmm. Laissez-nous pas faire, en quelque sorte. Venez donc régler le problème. Mm-hmm. Donc, c'est ça qu'on veut faire. Donc, à l'aide de... On va faire une pétition qui va circuler. Il va y avoir des rassemblements, des manifestations. On veut aussi faire circuler l'information. Parce que le problème qu'on a, c'est que c'est une problématique qui est un petit peu dure à mesurer ou à mm-hmm. quantifier parce que notre hypothèse, c'est que les travailleuses, les femmes, sont au courant qu'elles n'ont pas droit. Donc, elles ne vont pas faire de demande d'assurance chômage et ne se feront pas refuser. Fait qu'on n'a pas tant de statistiques sur les mmh. refus parce qu'on sait que les travailleurs savent, j'en ai pas droit, je vais passer à autre chose, je vais aller me chercher un emploi moins bien rémunéré, je vais me garrocher sur la première job finalement. Donc, le but de la campagne, c'est de dire, c'est vraiment en parallèle du recours. On fait nos affaires devant les mmh. tribunaux, mais à côté, s'il vous plaît, réglez le problème, fait qu'on veut mettre la pression.
Vous parlez de pétitions, de manifestations pour faire pression sur le gouvernement. Est-ce que la population est sensible à votre cause? C'est une cause qui est assez technique, ça met du temps à être expliqué. Est-ce que vous pensez que vous allez réussir à obtenir assez de soutien de la part du grand public?
Écoutez, je l'espère. Mm-hmm. Oui, puis je pense que oui, nous, on en parle depuis des années de ça, puis à chaque fois qu'on en parle, toute personne confondue, on a l'appui des gens. C'est un peu impossible de... Enfin, j'aimerais ça avoir... connaître quelqu'un qui va me sortir des bons arguments pour cette cause-là. Ces femmes-là ont cotisé, ces femmes-là ont travaillé. C'est pas un cadeau qu'on leur fait, là. Finalement, c'est qu'on, quelque part, on détourne leur cotisation. Donc, nous, on pense, oui, on a l'appui. Le problème qu'on a, c'est que, vous l'avez dit, c'est super technique. Donc, c'est pas quelque chose qui se comprend en deux secondes, mm-hmm. super facilement. Et aussi, c'est difficile de faire passer des messages sur l'assurance-emploi. Dans l'espace médiatique. C'est pas un sujet dont on parle beaucoup, pourtant c'est un des programmes sociaux qui est le plus utilisé. On parle d'environ 1 million de demandes chaque année au Canada. C'est un gros programme social là, comparé à d'autres. Les gens aussi n'ont pas nécessairement envie de se mobiliser sur l'assurance emploi parce que c'est un mauvais moment à passer. Hein. Ils sont au travail, perdent leur emploi, se ramassent à l'assurance emploi, ça va pas bien, il faut qu'ils contestent. Puis souvent, ils vont se retrouver un emploi puis un peu passer à autre chose. Donc, il y a quand même... Ça, c'est vrai pour tous les groupes de défense de chômeurs et chômeuses à travers la province. Il y a un enjeu. Mais oui, on pense que là-dessus, en fait, on l'espère ardemment qu'on va avoir l'appui de la population. Pour l'instant, en tout cas, on l'a. C'est juste qu'on n'a pas l'oreille du parti au pouvoir, puis on se demande un peu pourquoi.
Bon, on lui passe le bonjour.
Oui, effectivement. Bonjour au ministre Randy Boissonneau.
Et alors, comment on peut vous soutenir, celles et ceux qui découvrent un peu la cause ce matin? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour vous aider?
Bien, on vous invite à nous suivre. On va dévoiler là, un calendrier de campagne très bientôt. Donc, sur notre site Internet, il y a toute l'information. Sur les réseaux sociaux, les gens peuvent s'abonner à notre infolettre en nous écrivant. Peuvent nous suivre donc, sur Facebook, LinkedIn, Instagram, mm-hmm. tout ça. Les femmes qui seraient dans cette situation-là, puis ça, je tiens à le dire quand même, là, puis qui ne savent pas quoi faire, elles peuvent nous contacter. On ne va pas nécessairement les représenter parce qu'on est un petit groupe communautaire avec mm-hmm. des moyens assez petits, mais on peut les guider. En fait, ces femmes-là, ce qu'elles peuvent faire, c'est contester de leur côté et demander au tribunal, finalement, de mettre leur dossier sur la glace en attendant que mm-hmm. les hautes sphères, le Cour d'appel fédéral et peut-être la Cour suprême, on l'espère pas, mais peut-être, nous donnent raison ou pas, mais disposent en tout cas du fond du dossier. Fait qu'on invite les femmes à contester. Ça aussi, ça va mettre du poids. T'sais, parce qu'on va avoir plus de chiffres, on va voir mmh. combien de femmes ça touche. Donc voilà, puis oui, de s'impliquer, puis de venir, on va appeler à des rassemblements publics là, bientôt, de se joindre à nous.
Très bien.
Fort apprécié.
Eh bien, merci beaucoup, Jérémy, d'être venu nous parler de ce sujet important. Donc, toutes les infos sur macmtl.qc.ca. Vous êtes le mouvement Action Chômage de Montréal. Merci beaucoup et puis bonne continuation dans votre lutte au final.
Merci à vous.
On continue sur CIBL avec la chronique de Julie Grenier sur les enjeux d'itinérance.
« Si vous me croisez un de ces matins, et que vous filez pour me faire votre baratin, vous pouvez me dire que j'ai une belle taille, ou de splendides cheveux de bataille. Vous pouvez demander pour qui je vote, vous pouvez demander pourquoi je rote. Il n'y a qu'une question qui m'empissette, où donc étais-je en 1837? Venez pas me conter vos histoires d'amour, l'amour, 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 dites-moi. Ne me posez pas de questions sur le hockey, parlez pas de politique pis c'est ok. Qui parmi vous est assez visionnaire pour m'aider à remplir mon questionnaire? Qui donc élucidera la devinette? Où donc étais-je en 1837? Moi qui trouve qu'il n'y a rien de plus poétique qu'une femme facteur qui trimballe sa boutique, qui va de porte à porte à petits pas. Moi le simple d'esprit qui ne vieillit pas, au lieu de me dire toutes sortes de balivernes, de me raconter des histoires de taverne, dites-moi plutôt la réponse que je souhaite. Où donc étais-je en 1837? Moi le vieux nonchalant de l'infini, qui traîne un fond d'histoire indéfini, jusqu'où mon esprit clairvoyant ondule, en ne rencontrant que des incrédules. Je vous demande de vous approfondir, si vous n'avez pas grand-chose à me dire, faites un effort, servez-vous de vos lunettes, où donc étais-je en 1837? Docteur, ne vous en faites pas pour autant, parce que dans le fond de ma tête, ça parle tout le temps. Il y a longtemps que j'ai pris l'habitude de des voix qui poussent dans ma solitude, à travers toutes les grandes questions qui hantent ma salle de répétition. Il y a cette voix qui toujours me répète: où étais-tu en 1837? Où étais-tu en 1837? Où étais-tu en 1837? Là, je suis...
C'était 1837 de Plume la Traverse et je reçois pour finir notre chroniqueuse Julie Grenier, gestionnaire au mouvement pour mettre fin à l'itinérance à Montréal. Bonjour Julie.
Bonjour.
L'angle que vous avez choisi pour votre chronique d'aujourd'hui est l'itinérance des femmes. Pourquoi ce sujet-là maintenant?
Alors, bien oui, je l'ai choisi pour différentes raisons. Bon, évidemment, la semaine dernière, c'était la Journée internationale des droits des femmes. Il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, nos collègues du RAPSIM, donc le Réseau d'aide pour les personnes seules et itinérantes de Montréal, tient une journée de forum spécifiquement sur justement l'itinérance au féminin. Et conjugué à ça, je vous dirais qu'il y a aussi un groupe de femmes dont plusieurs sont membres du mouvement. Il y a même notre directrice générale au mouvement pour mettre fin à l'itinérance qui ont sorti la semaine dernière un site Internet qui s'appelle transformationsociale.ca, dans lequel elles relatent là, plusieurs articles de leur parcours à titre de gestionnaire féminine là, d'organismes. Donc, plusieurs raisons, je vous dirais, qui font en sorte que je pense que c'est un sujet aussi qui est important. Une réalité qui est mal comprise. Puis d'ailleurs, je te disais hors d'onde que je ne me sens pas nécessairement par ailleurs une spécialiste de la question, mais je trouve ça important qu'on l'aborde. Je suis pas une militante féministe en soi, mais ça fait partie de la réalité du milieu de l'itinérance avec ses subtilités.
Et alors, pourquoi parler d'itinérance au féminin? Qu'est-ce qui est différent dans les besoins des femmes qui vivent cette situation-là?
Bien, écoutez, plusieurs choses. Je pense que... Puis c'est drôle parce qu'en m'en venant, j'ai eu un appel de celle que je me plais à appeler ma gourou. Elle s'appelle Vicky et c'est une femme extraordinaire qui a traversé toutes sortes d'époques dans sa vie, dont l'itinérance. Puis c'est d'ailleurs elle que je souhaite vous présenter prochainement. Là. Et je validais un certain nombre de choses avec elle parce qu'elle a bien connu, elle, les ressources, mais de l'intérieur, alors que moi, je les connais plus de l'extérieur, puis je validais certaines lectures avec elle. Mais ce qu'il y a de particulier dans l'itinérance au féminin, je pense que c'est aussi avant tout les causes sous-jacentes. Et on voit beaucoup dans la littérature, tu sais, c'est des parcours là, parsemés de violences de toutes sortes. Et c'est aussi ce qui fait en sorte que cette précarité-là est aussi souvent cachée. Donc, tu sais, on a des chiffres du dénombrement, là, du dernier dénombrement, où on dit qu'on est passé à presque 30 % dans le nombre de personnes qui ont été recensées à Montréal. Du 4000, on était... Je deviens mauvaise là, parce que j'avais l'ancien chiffre, là, mais du 4000 quelques personnes recensées, il y en a près de 30 %, donc au-dessus de 1000 quelques qui sont des femmes, qui s'identifient comme des femmes. C'est beaucoup, ce bond-là, mais ce qui est effarant, c'est que l'itinérance féminine est aussi très cachée. Mm-hmm. Elle est cachée pourquoi? Parce que ben, les femmes, souvent, vont être en situation de précarité, mais pour accepter un toit, vont accepter aussi toutes sortes de formes de violences sexuelles, financières, physiques, etc.
Mm-hmm. C'est ça, dans l'article produit par un de vos collègues du MMF, MMFIM, on parle d'une itinérance cachée, on ne voit pas les femmes dans la rue et pourtant c'est un sujet qui est important. Il est absent de l'espace médiatique, plus absent de l'espace politique, vous aurez l'impression?
Ben, je vous dirais qu'il est présent parce qu'on a quand même beaucoup de... Tu sais, je vous disais d'entrée de jeu, moi, je ne suis pas celle qui milite ou qui défend spécifiquement ce volet-là, mais on a quand même beaucoup de voix fortes et expertes qui en parlent souvent. Là, on a plusieurs organismes aussi au sein du mouvement qui sont spécifiquement là, dédiés aux femmes. Mais je pense qu'on comprend surtout mal ce que c'est l'itinérance au féminin, ce que ça implique comme trauma sous-jacent, mais ce que ça implique aussi comme trauma dans l'utilisation mm-hmm. des ressources. Je vous parlais de Vicky tout à l'heure, mais on jasait de ça parce qu'elle disait, ben moi, dans mon parcours, j'ai eu à me retrouver au début quand j'ai voulu me sortir de la rue ou quand j'étais dans des situations de précarité avec, par exemple, quelqu'un qui abusait de moi. Je me suis présentée plutôt dans des ressources pour violence conjugale mm-hmm. ou violence, mais elle disait en même temps, on n'est tellement pas bien, on a tellement d'autres traumatismes qu'on a un comportement qui dérange. Donc, ces ressources-là ne sont pas pour nous. Mm-hmm. On va se trouver dans une ressource pour des personnes en situation d'itinérance. Alors, mais là, avec peut-être d'autres craintes et d'autres traumatismes à venir, si elles ne sont pas spécifiquement dédiées à un milieu qui va venir vraiment prendre en charge les femmes avec ces différents traumatismes-là et leur permettre de reprendre leur envol vers d'autres choses, mais avec un accompagnement par étapes. Mais il y a des belles ressources qui font ça. Par exemple, le Chaînon, qui est un membre du mouvement, par exemple, chez Doris, par exemple, JFAM, mais je ne les nomme pas toutes, là, mais des organismes.
Justement, on y vient. Votre mouvement, il regroupe aussi des organismes qui sont spécialisés dans l'itinérance des femmes.
Absolument. Il y a 33 organismes membres du mouvement, puis il y en a 26 de ceux-là qui travaillent avec des femmes, dont 8 exclusivement. Je viens de vous en nommer quelques-uns. Puis parmi ceux qui ne travaillent pas exclusivement avec des femmes, bien, il y en a aussi qu'on associe au monde plus masculin, mais qui, oui, travaillent avec les femmes sur différents programmes. Donc, on pense Old Brewery Mission, on en parle souvent pour le volet homme, mais ils ont le pavillon Patricia McKenzie dans lequel ils ont fait récemment là, aussi, des belles transformations au profit des femmes. Et même Mission Bon Accueil aussi, on l'associe au volet homme, mais ils ont des programmes spécifiques, notamment pour les femmes, les jeunes mères.
Pourquoi cette image d'itinérance masculine pour ces organismes? Est-ce que c'est parce que c'est pas mentionné qu'ils s'occupent des femmes?
Je pense que c'est pas tant que c'est pas mentionné, mais ça vient encore une fois au fait qu'il y a des services qui sont méconnus. Mais l'important aussi, ça revient au stigma que j'ai amené en introduction. Je pense que il y a un certain nombre de femmes qui se sentent exclues de la façon dont les services sont dispensés, puis qu'au fil du temps, par ailleurs, les organismes, encore une fois, bien, se sont spécialisés, certains plus que d'autres. Puis en même temps, bien, le milieu, des fois, peut être peut-être aussi très conçu et vu. Puis encore une fois, ça, c'est pas moi qui le dis, c'est les perceptions bien, que les services à la base en itinérance ont peut-être été plus conçus pour recevoir des hommes avec des contextes spécifiques. Je pense que c'est une réalité qui appartient au passé, mais je pense que c'est une réalité où on a encore à travailler parce que le phénomène de l'itinérance cachée dont on parle, ça veut dire qu'il y a beaucoup de femmes qu'on échappe, donc on n'a pas les bonnes ressources non plus pour leur permettre, ou en nombre suffisant. On a peut-être, oui, les bonnes ressources, mais pas en nombre suffisant pour les permettre de les amener ailleurs. Donc, elles vont endurer des situations qu'elles ne devraient pas endurer, là.
Vous avez mentionné l'article de la presse qui fait référence aux femmes en situation de violence conjugale. Quel est le lien avec l'itinérance?
Bien, en fait, je pense que le lien, il est vraiment grand pour les femmes parce que souvent, ce qui peut conduire à la rue, bien, va être justement la précarité causée par une situation de violence conjugale. Donc, une femme qui va, par exemple, avoir choisi de fuir le domicile, aller dans un refuge XY, mais que au bout de la ligne, dans la situation actuelle, bien, peut-être ne trouvera pas, dans toute sa précarité, à se réaffilier dans un logement parce qu'il en manque, parce qu'elle n'a pas le soutien adéquat. Ou à l'inverse, encore une fois, bien, des femmes vont vivre de la violence au lieu de se retrouver à la rue. Donc, je trouve que c'est deux sujets qui sont vraiment intimement liés. Puis peut-être qu'on ne les aborde pas de façon assez liée dans notre façon de bâtir les services, les programmes et de les soutenir concrètement. Alors, je ne sais pas si je suis claire, mais je trouve que la ligne est très mince, en fait, quand on parle de femmes et de violence conjugale et de ressources associées. Mm-hmm. Puis, il y a probablement quelque chose à explorer davantage dans notre façon, donc, d'offrir les services et de les aider, puis de, qu'elles ne soient pas prisonnières d'un secteur ou de l'autre. Je ne dis pas qu'elles le sont forcément, parce que sûrement que plusieurs organismes là, le font bien, mais je pense qu'il y a quelque chose pour mieux aider les femmes à joindre de ce côté-là.
On parle du problème. Une des solutions, c'est la prévention. En quoi elle consiste et quel peut être son impact positif?
Bien, la prévention, elle est à plusieurs niveaux, mais c'est sûr que si, encore une fois, on voit la violence conjugale ou toute forme de violence, là, parce qu'il y a plusieurs formes de violence comme un point de bascule, bien, il faut être capable d'agir avant de retrouver des femmes dans de telles situations de précarité. Moi, ce qui me préoccupe, c'est de voir qu'on a un nombre grandissant dans nos données officielles, mais qu'on le sait que, justement, c'est aussi ce qui fait probablement le plus grand contrepoids dans nos données cachées. Alors, ça veut dire qu'on échappe à toutes sortes de moments de vie, que ce soit autant dans le dossier logement, là, qu'on voit qu'on piétine, mais les femmes sont souvent... Aussi, on voit aussi que la première cause d'itinérance maintenant, c'est l'éviction. Il y a 20 % des situations là, dans le dernier dénombrement qui sont identifiées à ça. Souvent, ce sont des femmes aussi qui vont se trouver dans des situations de précarité de logement avec des enfants, etc. Donc, tu sais, il y a de la prévention à faire à bien des niveaux si on ne veut pas se retrouver à surreprésenter les femmes. Là.
Et du côté des solutions politiques, l'article de la presse fait mention que c'est encore difficile de faire prendre conscience aux politiques que les femmes existent et qu'il faut adapter les solutions à leur situation.
Mais encore une fois, je pense que la conscience est probablement là. Après ça, c'est la compréhension et les silos dont je vous parlais. C'est vraiment, on a cette propension-là à avoir toutes sortes de solutions plutôt isolées. Et c'est tellement difficile déjà pour les organismes qui se spécialisent, tu sais, d'avoir leur financement pour maintenir des programmes. Bien, ensuite, d'avoir de l'agilité nécessaire, bien, ça devient encore plus difficile, je vous dirais. On a eu un budget hier. On n'a pas eu grand-chose de nouveau, là. Je pense qu'on a beaucoup capitalisé sur les annonces qui nous avaient été faites en novembre dernier, là, sur la mise à jour économique. Mais c'est tout ça aussi. Je pense que si nos organismes sont capables d'avoir des programmes et des financements qui leur permettent d'être plus flexibles entre eux, de développer de façon plus agile, on va peut-être déjà s'aider davantage, mais tranquillement.
Tranquillement, pas vite. Merci beaucoup, Julie, pour ce petit sujet sur l'itinérance au féminin. Vous faites partie du mouvement pour mettre fin à l'itinérance à Montréal. On peut retrouver toutes les infos sur votre site Internet. Merci beaucoup.
Merci.
Puis on se retrouve
vous.
Bientôt pour un nouveau sujet.
Au plaisir.
On continue sur CIBL avec la clôture de l'émission et le programme de demain.
Avec du linge qui se creuse les méninges. l'intention d'être activiste, mais il y a une chose que je sais bien, c'est que je suis un singe avec du linge qui se creuse les méninges, et je reste toujours bien un singe. Je suis un singe avec du linge qui se creuse les méninges, et je reste toujours bien un singe.
C'était Un singe avec du linge de Margaret Tracteur. Et pour nous, l'émission d'aujourd'hui touche déjà à sa fin. Je remercie nos invités et nos chroniqueurs, chroniqueuses du jour d'être passés à l'émission, ainsi que Maurice Bolduc pour la mise en onde et les choix musicaux. Demain, on reçoit l'humoriste Eric Preach, mais aussi la directrice artistique de l'Orchestre symphonique de Montréal. Alors restez branchés sur CIBL pour suivre ce beau programme. Et puis juste après, à 10h, c'est le retour de l'émission Francophile, animée par Philippe Papineau, qui est avec nous en studio pour nous donner le programme. Bonjour Philippe.
Salut, comment ça va?
Ça va très bien, comment tu te sens?
Oh, fébrile. Ouais. Je suis comme un enfant dans un magasin de bonbons en même temps que je me sens nerveux, mais heureux d'être là puis de pouvoir retrouver l'auditoire de CIBL. Ça fait un grand plaisir.
C'est ça, t'as quand même l'habitude.
Oui, j'ai fait l'émission pendant longtemps, plus que 10 ans, mais ça fait quand même quelques années de ça. Alors, de retourner au micro, à la console, à la mise en onde, à l'animation, au choix musical, c'est le fun. Ouais. C'est d'avoir les mains dedans, c'est trippant.
Et quel est le concept de ton émission pour ceux qui ne la connaissent pas encore?
C'est assez simple. C'est moi qui ne vous parle de musique. Avec ma sélection musicale, inspirée bien sûr de l'ADN de CIBL, des choses qui sont tout récentes, des choses qui sont plus du passé, de mon passé, des passés des quarantenaires. Donc, on est dans les archives et à la fois dans la nouveauté, à la fois dans le plaisir, dans la découverte, dans l'apprentissage de la musique et de ce qui se passe dans la scène musicale.
Donc, 2 heures de musique francophone animée par Philippe Papineau.
Voilà.
Super. Et c'est tous les mercredis de 10 à midi.
Exact. C'est un rendez-vous.
C'est retenu. On sera là. Restez donc sur CIBL. C'était Charline Caro. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à demain pour une prochaine émission.
Ludovic, c'est comment de jouer au hockey avec son père?
Au début, papa comptait tous les buts. Mais au bout d'un moment, il s'est fatigué et il est tombé par terre. Et puis là, je suis passé devant...
Le plaisir de bouger, ça s'entend. Un message du gouvernement du Québec. Puis, Sarah, comment on se sent après une bonne randonnée?
Très... très contente. Oh, ça fait du bien. Waouh, la vue!
Le plaisir de bouger, ça s'entend. Un message du gouvernement du Québec.
Depuis plus de 30 ans, le journal mensuel Écho Montréal est le fier porte-parole de l'actualité politique, économique, sociale et culturelle au cœur de Montréal. Distribué gratuitement et rejoignant 200 000 lecteurs, Écho Montréal est aussi un véhicule publicitaire polyvalent en répondant efficacement aux besoins de différents annonceurs, comme dans l'immobilier ou tout simplement pour y afficher avis public ou services professionnels.
À lire ce mois-ci dans Écho Montréal. Montréal à la croisée des chemins. Pain, vin et fantaisie. Le triomphalisme trumpiste. Immobilier, bilan 2023, perspective 2024.
Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter notre plateforme numérique à echomontréal.com ou à composer le 514-844-2133. 514-844-2133.
Eh oui, la vie de famille comprend son lot de défis. Ici Chantal Giraudet, votre animatrice et coach familial. Je vous invite à écouter mon émission « Au cœur de la famille » qui est diffusée tous les mercredis soirs à 19h sur les ondes de CIBL 101,5 FM Montréal. Chaque semaine, j'aurai l'occasion de vous partager des conseils et des anecdotes qui, je l'espère, vous donneront un second souffle pour vous aider à faire face aux défis que vous rencontrez au quotidien. C'est un rendez-vous tous les mercredis soirs, 19h, sur les ondes de CIBL.
Salut, je m'appelle Sophie Chartier. Si vous êtes comme moi, ça vous arrive de vous demander qu'est-ce que les gens écoutaient, mettons, en Afghanistan dans les années 70? Ou bien, c'est quoi la différence entre salsa et bachata? Les vendredis à 20h30 sur les ondes de CIBL 101.5, embarquez avec moi et mes invités dans un voyage spatio-temporel à la découverte d'un courant musical fascinant. Ses origines, ses chansons, ses artistes. Courant d'air, c'est l'émission de découverte musicale à ne pas manquer pour une exploration en profondeur et en plaisir des musiques marquantes du monde entier.
Communautaire parce que les gens se sentent impliqués là, comme une espèce de longueur d'onde.
CIBL, au cœur de la vie citoyenne.